C'est déjà le moment de se dire au revoir. Si tu veux, c'est une bonne chose à la fin. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est MC Gilles qui t'a donné ces deux heures-là. Je te les ai données. Je les prends, je mets un chou autour, puis je te le donne. Amuse-toi avec. Cours partout. Capote. À la semaine prochaine, maman, même Gilles. J'attends tes nouvelles. MCGilles.com. MCGilles.com. Envoyez-moi tes tunes, moi, il fait jouer. Tu vas être une star, moi, on va capoter. Les anniversaires, tout. C'est tout gratis. Salut, bye.
Alors, il est midi 2, midi 3 maintenant, voilà, paf. Donc, nous remercions MC Gilles, désolé pour le retard, mais nous n'avions pas le cœur de couper l'émission qui était un petit peu en retard.
Et en plus, il avait une bonne prog.
Ah oui, tout à fait, on a bien rigolé en voyant sa prog musicale. Vous écoutez...
Tu arrives à comprendre le canadien, toi?
Non, moi, j'arrive pas.
C'est une question d'habitude.
Il faudrait inviter des spécialistes, alors.
Oui, je pense aussi.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 21 janvier 2012. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le programme méga, méga chaud que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Le premier bouquin qui est pas vraiment une bande dessinée, mais ça parle de BD. Xavier l'avait chroniqué il y a quelques émissions, je sais pas si c'était pas il y a 3 semaines, c'est le bouquin de Francis Groulx, ça s'appelle Au coin de ma mémoire, et c'est...
Radio FMR présente... Le supplément week-end... Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 302, punaise, je vais y arriver.
Oui.
Ouais, on a un petit peu de retard, donc veuillez nous en excuser, cela arrive de temps à autre. En même temps, on a une programmation légèrement surchargée.
Oui, donc... comme toujours. C'est pas toi qui me disais ce matin qu'il fallait absolument que du sport nous chronique 3 romans, parce qu'on allait être léger.
Ouais, finalement, il a eu le temps que pour un seul, ce sera un Sherlock Holmes d'ailleurs. La semaine prochaine, nous serons en direct d'Angoulême, accueillis par le
Déjà.
Conseil général des jeunes et avec nos amis d'ActuABD, entre autres pour la remise du prix, qui est un prix remis par des lecteurs. Hein. Attention, c'est pas les prix remis par les professionnels, etc. Ce sont des lecteurs qui sont en même temps des élus politiques. Puisque ce sont des collégiens qui ont été choisis par leur père pour siéger au Conseil Général des Jeunes. Tout cela, toute leur mission, ils nous le raconteront. Enfin, on va essayer de faire en sorte qu'ils nous le racontent. Mais on a eu de sacrées surprises des fois pendant les interviews et sur les choix justifiant donc pourquoi ils ont pris tel BD plutôt que tel autre aussi. Donc ce sera, je pense, une émission qui sera extrêmement intéressante, en même temps qu'il y aura une heure consacrée en fait par un papier à la fois d'ambiance et en même temps par les impressions et tout ça. C'est tout ce que ActuABD n'ose pas écrire directement, mais ils peuvent se lâcher sur un micro, sur une petite radio toulousaine.
Oui, voilà, ou alors si vous êtes fan de ce site qui est notre partenaire, vous pourrez écouter les plumes, cette fois-ci en version audio.
Avec un petit regret, puisque donc le nouveau rédacteur en chef, Charles-Louis de Touré, ne sera pas présent.
De tournée,
je vais y arriver.
Comme la Belgique, comme la ville belge.
Comme la ville, exactement. Et si vous allez sur ActuABD, il y a plein de débats qui sont extrêmement intéressants dans les infos, notamment sur la fermeture surprise de la galerie de vente de planches de bande dessinée, la galerie justement, où se posent des questions sur comment marche réellement ce secteur, celui de la revente en fait des planches originales auprès du public.
Oui, et puis là, il y avait aussi des soucis de viabilité, de remboursement des
exactement.
Auteurs.
Exactement. Le fisc français qui considère que les dessinateurs de BD sont enfin des auteurs, puisqu'il y avait eu une histoire un petit peu bizarre hein, qui s'était passée de ce côté-là. Faut savoir que le statut, certains ont un statut de journaliste, donc ont une réduction spécifique à partir du moment où on fait du dessin de presse. C'est pour ça que certains font du dessin de presse. Alors que d'autres non, etc. Et en même temps, ben, y a les collaborations occasionnelles, comment c'est vu et tout le reste. Et plein d'autres choses, notamment un très bon papier de Didier Passamonique sur le in, le off, le over, le out et le through donc du festival d'Angoulême. Pour moi, je retiendrai plutôt une classification qui est différente. Il y a le Angoulême In, ce qui est organisé officiellement par le Festival International de la Bande Dessinée. Il y a le Angoulême Off.
Mais le off officiel ?
Officiel, voilà, exactement. Il faut savoir quand même qu'il y a toujours une partie assez importante qui était consacrée aux fanzines, qui était consacrée à des maisons d'édition complètement indépendantes ou à des auteurs qui n'ont pas été créés. En général, c'était à la bulle New York. Et c'était plus ou moins intéressant, c'est-à-dire, dans le sens plus ou moins intéressant, c'est qu'on a vu vraiment des talents éclore, découverts là-bas. De ce côté-là, et en même temps, des fois, ben, c'est vrai que ça tournait un petit peu à la bière, saucisse, canette et tout le reste.
Pas qu'un peu, hein. Si vous y baladiez à 19h le soir, c'est vrai que les têtes à crête et les. Ça sentait un peu la bière et les chaussures collées par terre, oui.
Oui. Voire parfois, ils proposaient la location de punk et même TF1 à marcher dedans.
Voilà,
cette blague.
Enfin bon, vous réécouterez notre interview.
Il y a le Angoulême Off, à savoir le musée de la bande dessinée, puisqu'il y a un pôle image assez important. Il y a donc un musée de la bande dessinée qui est un bâtiment superbe, hein, qui a été inauguré il y a 2 ans et qui est absolument magnifique. Mais il y a toujours des conflits au niveau politique entre justement les gestionnaires de ce musée de la bande dessinée et le Festival International de la Bande Dessinée, plus exactement avec l'association, avec l'entreprise qui gère ça. Hein. Donc ce qui fait que le musée de la bande dessinée a des expos extrêmement intéressantes, justement en fait avec le président Art Spiegelman et tout ça, mais c'est pas dans les dépliants officiels. Donc il faut quand même regrouper tout ça, etc. Donc ça c'est le off-off, et il y a le Angoulême off-off-off, à savoir celui des fanzines.
Ah, tes souhaits.
On va y arriver. sachant qu'il n'y a plus un bar qui était mythique sur là où il y avait les bulles à Angoulême, c'est le Mars Attack, qui était place du Champ de Mars.
C'est vrai qu'il n'y est plus.
Il n'y est plus. Ouais. Il n'y est plus. Mais en général, il y a des concerts, il y a des performances, il y a de la grosse beuverie en tous sens.
Ce qui est de rigolo aussi, si vous êtes amateur de bande dessinée et que vous allez dans un bar, à un moment donné, regardez un peu les recoins, parce que c'est là le domaine de prédilection des journalistes pour interviewer en catimini les auteurs au calme avec un petit café ou un coca. Regardez bien les coins dans les bars.
Ouais, nous, il va falloir qu'on trouve un nouveau lieu, à mon avis, encore pour faire les interviews au calme, parce que dans les bulles, avec les annonces.
En ce moment, dédicace. D'ailleurs, le petit Gérard est attendu par son éditeur, tandis que Simone, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une vanne pourrie sur tel truc, etc.
Enfin, c'est absolument intenable. Évidemment, donc, on cherche à chaque fois un bon endroit pour se mettre et en fait, en général, ce sont des bars qui paient pas de mine, où on peut aller tout au fond et où en plus ils nous reçoivent avec un immense plaisir. On le répète une fois de plus, les Angoumoisins, les Charentais ont un sens proverbial de l'accueil et ils se mettent vraiment en quatre pour nous.
Ah, c'est sûr que on est bien dans nos Charentaises. Et le Pinot des Charentes, ouais. Toujours inégalable.
Et les Charentaises, c'est clair que là. On est accueillis, oui tu l'as dit, pardon, excuse-moi. Voilà, ça s'appelle une collision d'antenne. Je rappelle que c'est la 29e édition du Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême. C'est Art Spiegelman qui en est le président cette année, puisqu'il a eu le Grand Prix l'année dernière. C'est quelqu'un qui n'a pas eu quand même une activité éditoriale au sens BD.
Très fourni,
hein, puisque en fait il avait fait 2-3 BD auparavant. Il a immédiatement explosé avec sa série Mouse sur en fait la Shoah qui était revisitée avec des souris et des chats, sur lequel il a eu immédiatement le prix Pulitzer. C'est la première fois qu'un prix Pulitzer était donné par une bande dessinée. Je crois que c'est toujours l'unique fois.
Oh ouais.
C'est la deuxième fois qu'un Américain a le prix. De la ville d'Angoulême. Deuxième ou troisième fois, pardon. Je crois que c'est la troisième.
Après qui, vas-y.
Alors, il y avait un autre auteur underground, je vais y arriver.
Robert Crumb.
Robert Crumb. Et le tout... Bah,
et
oh, punaise, l'inventeur du...
Allez, Will Eisner.
Will Eisner, voilà. Oui, parce qu'il y a eu un journaliste qui a
là,
dit...
Là.
Il y a un journaliste sur une chaîne sénatoriale qui a dit que c'était que la deuxième fois qu'il était attribué. Non, c'est la troisième.
Bon, structurons notre propos.
C'était important. Enfin,
bon. Allez, on va pas aller dans tous les sens. Didier Passamonique serait là, il nous le dirait. Structurez-vous, les jeunes.
Bah oui, je suis désolé. Si vous voulez en savoir plus sur l'organisation, en fait, et l'histoire de ce festival, qui pour nous, évidemment, c'est la Mecque et tout ça, c'est le plus important, un festival de bande dessinée en Europe. Il fait foi de ce côté-là. Figurez-vous que l'un des fondateurs, Francis Groux, a sorti ses mémoires. Justement, tu parlais de structure, mais en fait, c'est pas franchement structuré. Hein. Il va dans tous les sens. Il raconte en fait 40 ans de sa vie.
Mais c'est pas la troisième fois qu'on le chronique, ce bouquin ?
Bah, tu vas en parler dans 3 semaines.
D'accord.
Au passé antérieur. Donc, je repasse l'intro pour ceux qui n'ont pas suivi.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Le premier bouquin qui est pas vraiment une bande dessinée, mais ça parle de BD. Xavier l'avait chroniqué il y a quelques émissions. Je sais pas si c'était pas il y a 3 semaines.
Non, je ne l'avais pas chroniqué, Thomas.
Ben, en fait, tu pensais chroniquer, tu me l'avais prêté pour qu'on en parle ensemble, et en fait, je t'ai grillé la politesse.
Voilà, exactement. Moi, je pensais avoir Francis Groux au téléphone, et puis finalement, bien après, on a eu une actualité qui était monstrueuse, c'était les 30 ans de la radio, et on avait pas mal de choses à faire, nous, de notre côté, plus différents événements que l'on avait en direct, en extérieur. Que ça soit le Pétard Mouillé de Colomiers, que ça soit bien évidemment le Toulouse Game Show, où là ça a été vraiment la furieux et extrêmement riche. Et ensuite, eh ben, Didier en a parlé sur Actua BD, je voulais pas faire une redite.
Et puis Thomas l'a évoqué lors d'une émission où tu n'étais pas là.
Oui, mais voilà. C'était bien après, justement, tous ces événements-là. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, justement, ou jamais, d'en reparler. Francis Groux est l'un des cofondateurs du festival d'Angoulême, qu'il a monté, bien évidemment, avec... Non, ne me faites pas ce coup-là, les enfants.
Claude Moliterni et Jean Mardiquian.
Oui, parfaitement, voilà, je vais y arriver.
Alors, et Francis Groux, c'est plutôt la partie associative, c'est lui qui a fédéré les gens, c'est plutôt la partie saucisse merguez du festival.
C'est bien, tu te souviens de tes vannes, parce que j'aurais écouté l'émission en question juste avant de partir. évidemment, ce qu'il raconte dans ses mémoires, il n'y a pas de révélation franchement fracassante pour qui connaît un petit peu la vie politique angoumoisine ou qui connaît un petit peu justement le milieu des éditeurs dans la bande dessinée. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui caresse toujours dans le sens du poil. C'est quelqu'un qui mettra toujours, dira toujours, il y a peut-être eu des trucs de ma faute, etc. C'est un boy scout. Et c'est vraiment de ce côté-là. D'abord, c'est quelqu'un qui est très investi dans le milieu associatif, puisque il est visiteur dans les prisons. Il s'occupe aussi de personnes handicapées. Il a une association. Il fait régulièrement des journées de marche.
Il vient en aide aux gens du voyage aussi beaucoup.
C'est quelqu'un qui a une vie qui est extrêmement passionnante de ce côté-là. Hein.
Qui a fédéré aussi des bandes dessinées pour apprendre aux femmes africaines à comment accoucher aussi.
C'est extrêmement riche. On voit que c'est quelqu'un qui s'est vraiment investi. Quand il s'intéresse à un projet, il s'investit jusqu'au bout, quitte à y impliquer les entreprises dans lesquelles il travaille. C'est quelqu'un d'extrêmement persuasif.
Oui, parce que son travail n'était pas du tout dans la bande dessinée.
Absolument pas. Indirectement, il se retrouvait mêlé plus ou moins sur la politique, puisque Angoulême devenait de plus en plus tributaire du festival qu'il avait commenté avec ses amis. Que ça soit donc 72 qui est la première préédition et 74 la première réelle édition, quand il s'en est un petit peu éloigné dans les années 80, on disait soit qu'il était de droite, soit qu'il était de gauche, suivant celui qui voulait le dénigrer au niveau politique, puisque il a des amitiés partout. Et c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux quand on le rencontre.
Oui, c'est ça. Et puis, moi, je me souviens pas trop l'avoir rencontré, mais c'est surtout ce qui transparaît du livre. Et après, c'est vrai que quand tu lis le livre, il y a aussi ce qui. Alors déjà, tu disais que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un plutôt qui va
caresser dans le sens du poil, mais c'est aussi lié aussi à son bagou. Hein. C'est pas quelqu'un qui va être qui va régler des comptes avec le milieu politique, puisqu'il n'est pas du tout dans le milieu politique. Il est plutôt dans la proximité avec les gens. Et aussi, quand tu lis le livre, c'est là qu'il y a une grosse opposition entre ce que Angoulême était au départ et ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que sous la pression des grands éditeurs, il voulait un salon plutôt salon corporate professionnel, alors que l'essence du festival au départ, et ce qu'il regrette un petit peu dans l'évolution du festival, c'est que c'était beaucoup plus à la bonne franquette, avec des sautes d'humeur d'auteurs qui sont drôlissimes, et puis surtout c'est ponctué, c'est pas anodin, par des dédicaces d'auteurs, et tu vois que c'est pas ses ennemis, quoi. C'est des gens avec qui il avait beaucoup sympathisé au niveau humain, et bon voilà, quand tu lis ce bouquin, ça te donne envie de revenir au festival, quoi.
Et c'est des dédicaces, d'ailleurs, certaines sont pas vraiment d'émotion, que cela soit Fred, Claire Bretochet, que cela
oui,
soit
en plus, la galerie est très impressionnante, hein, ouais. De toute façon, quoi.
Donc voilà, donc si vous n'avez pas la chance d'aller à Angoulême, ou si vous y allez, mais que vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez comprendre un petit peu les décisions sur Angoulême, par exemple, comment indirectement Book a pu faire venir le fameux carnaval de Lille à Angoulême, et pourquoi après ils ont réduit la voilure, etc., pourquoi ils sont montés en entreprise et tout le reste, c'est extrêmement intéressant, puisque du coup on comprend beaucoup mieux la plupart des décisions qui sont prises à Angoulême. Moi qui ai la chance quand même de suivre ce festival depuis pratiquement 18 ans, du coup je comprends largement mieux ce qui s'y est passé et les rumeurs qu'on entendait, etc. Du coup il y a des démentis qui sont extrêmement passionnants à lire. C'est comment un festival fait vivre une ville moyenne qui n'a pas beaucoup d'activités en dehors de cela et a finalement plus ou moins dicté la politique sans le vouloir, et comment les politiques essaient de le récupérer, bien évidemment, hein. Je pense que on va avoir un sacré défilé pour cette édition. Il y aura bien évidemment Ségolène Royal en tant que présidente de la région Poitou-Charentes. Il y aura Eva Joly qui sera présente vendredi pour le prix Tournesol remis par le parti Europe Écologie Les Verts.
Tournesol non OGM.
Bah oui, forcément. Forcément, il y aura. Bref, tout le monde sera présent. Évidemment, on aura Frédéric Mitterrand.
Bonsoir. Était déjà là l'année dernière.
Que d'émotion.
Quelle imitation magnifique.
Ah oui, fabuleux. Bref, il ouvre grand ses archives, il montre des photos. Ça fait vraiment bizarre de voir comment c'est fait. Il raconte comment le festival a failli couler parce qu'ils avaient pris des grandes tentes qu'on appelait. Le nom est resté d'ailleurs, ce sont des bulles. Hein. Ils avaient pris le même prestataire que le festival de Luciano en Italie. Et en fait, ces tentes se sont déchirées à cause d'une tempête. Et ils ont été en procès pendant 6 ans donc avec le loueur qui s'en occupait. Tout cela est vraiment, vraiment une lecture qui est intéressante. En dehors du milieu des auteurs de bandes dessinées, en dehors du milieu des éditeurs, on a quelqu'un qui vit une passion, mais qui, justement, n'intervient pas directement dans la production. C'est ça qui est intéressant dans ce livre.
Tu vois, moi, ce que je pense, c'est que c'est un bouquin qui peut être vachement bien pour un néophyte qui a envie de s'intéresser à l'histoire de la bande dessinée européenne. Parce qu'à travers ce bouquin, travaille l'évolution de ce qu'a fait Grou, le festival d'Angoulême, eh bien on a également l'évolution de toute la bande dessinée mondiale, européenne, surtout française bien sûr, mais qui est expliquée, quoi. Et ça c'est carrément un bonus, quoi. Donc c'est assez intéressant. Bon, bien entendu, il y a plein de plans qui sont un petit peu laissés de côté, hein, mais bon, ça c'est dû au goût personnel de Grou. Hein, mais bon,
je pense aussi que ça
n'empêche que bon, c'est quand même
qu'il ne parle que de ce qui a vraiment été reçu sur le coup, etc., mais surtout il veut éviter les choses qui fâchent trop, oui. Etc.
Après, je suis en partie d'accord avec toi du sport, parce que il faut quand même connaître un petit peu la bande dessinée. Il parle pas du tout révolution créative et tout, il dit aussi des fois en quoi tel auteur a été très très bien en fonction de son personnage et tout, mais c'est surtout le très ancré festival d'Angoulême. Et si tu n'y as jamais été et que tu t'intéresses un peu de loin à la bande dessinée, c'est quand même, ça s'adresse quand même à des connaisseurs.
Non, mais je veux dire, à travers l'évolution dans le temps, quoi. C'est-à-dire, il y a également une évolution, nombre de dessinateurs, de dessinatrices.
Ça, de ce côté-là, au niveau chiffres et tout, mais pas au niveau création.
C'est ça qui est très intéressant, quand même. Oui. Quoi.
Bref, Francis Grou, Au coin de ma mémoire, c'est chez PLG, plein la gueule. Donc PLJ, PPLUR, dans lequel dans la collection Mémoire Vive, dans lequel on retrouve aussi, par exemple, l'interview qui avait été faite par Edgar Pierre Jacobs, Alex Varenne, David B, hein, on va pas parler que les morts, qui est vraiment, vraiment, vraiment d'une densité. Après, c'est un bouquin qui reste à un prix relativement raisonnable. Interview menée par Jean Claval et Christ Miroir. Ah non, ils ont fait les illustrations, pardon, excusez-moi. Oui, désolé.
Elle était bien, cette chronique, et au dernier moment, bam.
Bam. Mercredi dernier, une bonne partie du web s'est éteint, tout simplement à cause d'une loi aux États-Unis qui menaçait d'être passée. C'est la deux lois en fait, c'est la PIPA et la SOPA, dans le cadre d'accords négociés inter-État non publics. C'est ce qu'on appelle l'ACTA, dont la communauté européenne va bientôt prochainement essayer de voter. C'est pour ça que justement même ceux qui n'étaient pas aux États-Unis, c'est-à-dire entre autres mon site, entre autres la Wikipédia germanophone et plein d'autres sites se sont éteints. Et c'est une mission qui a marché deux fois, tout simplement la première parce que PIPA et SOPA ont finalement été postponés, on en parlera une autre fois, mais vous inquiétez pas, ils vont essayer de la repasser, hein, cette loi. Je vous rappelle que même Google, même Facebook, même Flickr ont fermé leur site en protestation, même Reddit et plein d'autres ont fermé leur site en protestation avec cette loi. Mais surtout, cette loi est complètement inutile. Et la meilleure démonstration de son inutilité, c'est tout simplement que Mega Upload, le plus gros site, le plus connu et vraiment le plus ostensiblement scandaleux, hein, je veux dire, site qui propose du streaming illégal et du téléchargement illégal, a été fermé par les autorités américaines le lendemain. Or, site fermé veut dire on n'a plus rien à faire pour regarder des films et séries illégalement. Alors ça tombe très bien parce que hier j'ai pu voir sur YouTube tous les documentaires légaux, attention je précise, que j'ai pu rattraper, puisque en général si vous êtes abonné au réseau Free, YouTube avait vraiment des difficultés sur leur réseau, tout simplement parce qu'ils utilisent le même brin de connexion que évidemment Mega Upload. Donc forcément quand il n'y a plus le truc qui bombait 40% à bande passante, ça va mieux tout d'un coup, ça va plus vite. Ça va beaucoup mieux. Et Désert de Sel vous propose de faire quelque chose ce week-end. Alors, tout simplement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ce week-end à la fermeture du site Mega Upload. Alors, la première chose, c'est bien évidemment d'arrêter de pleurer sur la fermeture Mega Upload. La deuxième est d'éteindre son ordinateur. La troisième, c'est d'aller prendre l'air et d'en profiter pour acheter un stock de DVD vierges dans un magasin. Ensuite, aller dans une bibliothèque municipale, la plus pleine de DVD, la plus proche de chez soi, avec un ordinateur portable et les DVD vierges que vous venez d'acheter. Vous souriez au bibliothécaire en entrant et vous veillez à ne pas faire de bruit dans les salles de lecture pour ne pas déranger les autres usagers de la bibliothèque. Vous copiez tous les DVD de la bibliothèque que vous souhaitez sur des DVD vierges via vos ordinateurs portables. Bon, sans casser les protections anti-copies, hein, sinon laissez passer un autre DVD et puis voilà. Vous profitez du temps de gravure pour visiter la bibliothèque, ou pourquoi pas réviser votre bac, vos partiels, ou peut-être vous intéresser à un sujet culturel que vous n'avez pas finalement eu le temps, quand vous étiez jeune, de lire, quand le temps vous passiez à la bibliothèque encore. Vous rentrez chez vous et vous regardez les nouveaux DVD avec votre famille, vos amis proches, vous en appelez ça le cercle de famille, sans leur en faire payer le droit d'entrée. Eh bien, figurez-vous que tout cela, c'est tout à fait légal. Ben oui, parce que la politique documentaire de votre bibliothèque municipale, qui a décidé de devenir une véritable médiathèque en proposant près des DVD aux usagers, les contrats conclus entre les bibliothèques de lecture publique et les ayants droit des œuvres se trouvant sur les DVD, les prises électriques mises à la disposition de votre bibliothèque pour brancher votre ordinateur sans avoir vidé sa batterie, l'exception de représentation dans le cercle de famille prévue par l'alinéa 1 de l'article 112.5 du Code de propriété intellectuelle, dont les accords ACTA essaient de supprimer d'ailleurs, je tiens à vous le signaler, la nouvelle rédaction de l'alinéa 2 du même article sur l'exception de copie privée et surtout l'analyse détaillée de cette nouvelle rédaction par Calimac et l'interprétation de cette interprétation, eh ben, ça fait que vous pouvez encore regarder des films sans avoir à forcément les acheter et d'une manière presque gratuite. Donc tout cela, c'est Désert de sel qui le raconte très bien dans un document qu'il a publié le 20 janvier dernier et qui est disponible sous licence Creative Commons et on mettra en lien. Donc profitez-en, surtout qu'on est le deuxième week-end des soldes et que les bibliothèques, ben, y a un peu moins de monde.
Oui, mais est-ce que les films qui sont piratés, est-ce que ce sont ces films-là que tu trouves dans les médiathèques?
Bonne question. Mais là, par contre, les mettre en ligne, ça, c'est strictement illégal.
Ah oui, ça, c'est sûr. Mais voilà. Les films piratés, par exemple, Transformers 3, X-Men 14, des trucs comme ça, est-ce que c'est ça que tu vas avoir dans la médiathèque? Moi, je suis pas sûr.
Et bonne question. Mais je suis sûr que vous allez tomber sur des choses extrêmement intéressantes.
Oui,
à côté.
Allez faire un tour à la bibliothèque.
C'est tellement mieux. Ou sinon, découvrez une BD qui, en fait, est un blog. Le blog est gratuit et librement consultable, mais a été publié en album à côté. Il s'agit bien évidemment d'un blog BD extrêmement connu, et il n'est pas le seul à faire cela, puisqu'il est suivi par plein d'autres auteurs. Il s'agit de Boulet.
Voilà, Boulet, merci Xavier, pour quel enchaînement. Alors,
ouais. Ça s'appelle le Freemium.
Très bien. Donc Boulet sort son tome 6 de sa série Note, qui s'appelle Debout mes globules, celui-ci. C'est édité dans la collection Shampoing chez Delcourt. Et il s'agit, comme tu l'as dit, d'adaptation en bande dessinée de son blog qui s'appelle bouletcorp.com. Dans cet épisode, donc, Boulet a annoncé de toute façon sur son blog qu'il avait longtemps de toute façon retardé la publication en BD parce que quelque part ça allait lui enlever la liberté, que c'était quelque part monnayer ses expérimentations sur son blog et ça a dénaturé complètement le contenu. Finalement il a accepté parce que tout le monde lui demandait de l'avoir en vrai, c'est vrai, d'avoir en vrai les notes en question, et puis c'est vrai qu'il rajoute une vingtaine de pages en plus pour lier le tout, pour trouver un fil rouge à ses bandes dessinées, donc il y a quand même de l'inédit. Cette fois-ci, cette BD, je vous ai pas apporté les bonus, mais il y a des bonus qui sont en petits strips autour d'Angoulême qui rentraient pas en format BD, donc c'est fourni gratos en plus. Et cette fois-ci, après les deux tomes précédents qui étaient sur le rêve et le précédent qui était sur la fin du monde, cette fois-ci c'est sur la vulgarisation scientifique. Et c'est vrai que Boulet s'est posé en tant que dessinateur plus de bande dessinée pour les geeks avec le gars qui est un peu bedonnant, il tarde à faire la vaisselle, il va représenter la raclette mutante dans son évier, il va télécharger jusqu'à pas d'heure, etc. Il se présente en tant que flemmard parce qu'il va se lever à pas d'heure, etc. Il va manger des chips toute la nuit et puis il va oublier de se nourrir, il va manger de la junk food avec du kebab, voilà. Et maintenant, je pense qu'il a...
Oui, quoi ? Il y a une note importante, c'est qu'avant, Boulet était dessinateur pour enfants, on l'a oublié, hein, il a fait Ragnarok, mais surtout il a fait la rubrique scientifique. Donc la vulgarisation scientifique, c'est un thème qu'il avait déjà abordé.
Voilà, donc il avait fait le Mia aussi, Womox, donc il a fait pas mal de bandes dessinées jeunesse, mais il le dit dans ses bandes dessinées, et donc c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par la vulgarisation scientifique, et maintenant c'est quand même un des rares à en parler en bande dessinée. Et je pense qu'il a trouvé un filon aussi, puis c'est quand même... comme je disais, le seul à faire ça. La vulgarisation scientifique en bande dessinée, moi, franchement, on me dit ça, c'est pas trop ma came, mais c'est vrai que la façon dont il a d'en parler, c'est quand même assez intéressant. Par exemple, Debout mes globules, donc ça va être, allez, maintenant il faut se bouger le doigt du cul, il faut se mettre au sport, il faut s'entraîner, il faut cracher ses poumons qui sont pleins de cendres et tout. Et donc là, c'est vu à travers le centre de contrôle de son cerveau en disant, oula, qu'est-ce qui se passe? La machine est enrayée, il y a quelqu'un qui envoie des signaux bizarres, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention, ici c'est les pectoraux, ici c'est le cœur, non, il y a gros, m'aider, problème. Et à la fin, ça finit sur une chute où il dit, tiens, j'ai fait 10 pompes, je crache mes poumons, j'en peux plus. Voilà. C'est pas la première fois que je chronique un album de la série Note. C'est vrai que dans les deux premiers tomes, on avait une expérimentation graphique puisqu'il n'avait pas encore trouvé sa patte au niveau du blog. Et c'est vrai que tu avais du crayon de couleur, tu avais du feutre. Il avait des fois absence de cerne totale, de cerne noire, c'était avec du stylo feutre. Il avait expérimenté beaucoup à l'aquarelle avec du dessin en négatif, c'est-à-dire il dessinait sur un fond noir. Et c'est vrai que maintenant il a un peu trouvé son style, donc on a plutôt des tendances de strip BD qui se ressemblent un petit peu, avec un trait très très marqué, avec plein de petits traits qui font sa signature. Mais on a quand même des perles. Donc là j'ai sélectionné, il y a par exemple un strip BD où il y a dans chaque case, c'est une technique graphique différente quasiment, où ça raconte, tu sais que tu es vieux quand tu as téléchargé de la musique en 56K sur Napster. Tu es vieux si tu connais le verbe baguenauder. Si tu as déjà eu un bandana. Si, oui. Quand tu as cette image mentale quand on te dit téléphone, donc c'est le vieux téléphone
en bakélite.
Voilà.
Avec le cadran et donc les supports transparents.
Voilà, tu as donc plein de. Voilà, c'est parce que tu es né sous Giscard, presque sous Pompidou. Voilà.
Oula.
Donc t'as plein de. C'est un strip qui est très rigolo quand tu sais qui était série Collard, ou quand tu as regardé chez toi un Mindoscope et plein de VHS. Et t'as une autre strip aussi où il est en train de lire un bouquin d'Heroic Fantasy, un roman, et il le représente en pixel art. Avec des retours sur lui en train de lire la BD, et puis il dit les auteurs de fantasy, ils peuvent pas s'empêcher, il faut que tous les noms de patelins semblent sortir d'un catalogue Ikea. Ensuite il dit, bon alors voilà, là il était à la mer, là il va avec ses compagnons, avec le nain, là ils vont à la montagne, alors où elle est, où la carte? Ah, la carte, alors là il y a que les territoires avec que des K ou les trémas. Il dit, alors celui-là ça va être le territoire des méchants avec vos noms. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait son beurre avec l'heroic fantasy. Il faut pas oublier que Ragnarok, sa série phare en bande dessinée, était parti d'un pari stupide où, complètement bourré, il avait dit à ses copains, moi l'heroic fantasy c'est un sous-genre, je vous en fais quand je veux. Donc rentré chez lui complètement bourré, il fait l'histoire du bébé dragon qui arrive pas à voler, qui arrive pas à cracher du feu, et ça donne Ragnarok, qui est une série aujourd'hui en 6 tomes. Et donc il revient souvent à l'heroic fantasy parce qu'il est fan de tout ce qui est barbare à grosses épées, et qu'il se dit tout le temps
sa chaise s'en souvient.
Voilà, où ce serait bien que la vie, ce serait bien si la vie se résumait en fait au temps des barbares, avec où il faut juste buter des dragons, se taper des princesses et collectionner de l'or pour aller se payer des bières à manger des ours. Voilà. Donc c'est voilà, il y a pas mal de, au niveau scénario, c'est quand même quelqu'un qui est aussi beaucoup connu pour son talent de scénariste. Au niveau du trait, évidemment, il a une patte qui est beaucoup copiée, par moi le premier d'ailleurs, dans mes illustrations de dimanche. Beaucoup à l'aquarelle, beaucoup avec pas mal d'expérimentations un peu cracra, avec du trait qui est très 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 dense. Donc voilà, donc Boulet, ça reste toujours très bon. En plus, ce fil rouge-là, Debout mes globules, sur la vulgarisation scientifique, est très efficace et très très bien trouvé. Donc voilà, ça s'appelle Debout mes globules, le 6e tome de la saga Note. Édité dans la collection Shampoing chez Delcourt. Si vous êtes fan du type, il sort en ce moment pour Angoulême sa nouvelle bande dessinée qu'il a scénarisée et dessinée par Pénélope Bageux, qui s'appelle La Page Blanche.
Ouais.
Et donc il a annoncé sur son blog que justement ce qu'il craignait est arrivé, c'est-à-dire que maintenant en fait il se contente juste de publier du contenu pour son blog, il ne fait plus d'album du tout de bande dessinée, et deux fois par an il y a un nouveau tome de notes qui sort. Il a décidé de rompre un petit peu cette routine, ça va s'arrêter je crois l'année prochaine, et là il va reprendre la main sur son blog il veut que ça redevienne un territoire d'expérimentation. Et donc voilà,
théoriquement il a déjà, là il termine en fait son histoire sur son blog, d'après ce que j'ai compris,
il termine, mais il a mis la nouvelle la mise à jour de son blog où il s'oblige plus vraiment à avoir un rythme de parution. S'il en publie 3 par semaine ou 3 par mois, pour lui ça lui est égal. Il va revenir à des expérimentations scénaristiques autant que graphiques. Bon, voilà. Donc on attend de voir. Pour l'instant il reste dans la veine vulgarisation scientifique avec toujours ce trait qui est toujours propre à son style, mais on attend toujours le changement. Voilà. Donc Boulet, évidemment, si vous voulez le toper une dédicace, il y a toujours Angoulême, mais par contre c'est minimum une heure de queue.
À propos de la page blanche, oui. Petite surprise quand même, parce que donc Pénélope Bagieu, auteuse girly, on va dire, et là c'est sur, en fait, sur l'amnésie. Les premières planches qu'on a lues sont
assez saisissantes,
sont vraiment bien, oui. À tel point que c'est vrai qu'on a eu un temps d'arrêt avec ma copine, on a dit. Là, c'est Boulet ou c'est Pénélope Bagieu là qui dessine. On a l'impression que du coup, ils sont allés l'un vers l'autre, vraiment, de ce côté-là. Donc, il y a vraiment un très très bon album. On l'a pas encore lu en entier, donc on ne peut pas en parler.
Mais il sera sorti.
Oui, il est en preview. Hein. Il est en preview à Angoulême.
Voilà, le premier chapitre est disponible sur le net gratuitement, et voilà, comme tu l'as dit, l'album sera au festival.
Gauche, droite, B, A.
Alors, vas-y.
C'est le Konami Code.
Voilà.
Qui, en fait, est un code caché qui, sur un jeu, un vieux jeu, hein, sur NES, permettait de déverrouiller un truc, et qui est resté, puisque Konami, si ça porte le nom de la maison d'édition et pas le nom du jeu en question, c'est que tout simplement Konami s'est amusé à le mettre un petit peu partout puisqu'il est devenu très célèbre. On le trouve même maintenant sur le web et dans plein d'autres endroits. Mais là, c'est parce que j'y pensais à cause du nom du bouquin que tu vas chroniquer.
Ben oui, parce que d'ailleurs c'est expliqué, puisque c'est en raison de ce code-là qu'ils l'ont appelé cette bande dessinée comme ça. Il s'agit du hors-série du magazine spécialisé dans le jeu vidéo qui s'appelle IG Mag, IG pour In-Game, édité par Ankama Press. Cette BD que je tiens entre les mains, c'est un recueil des bandes dessinées, des petits strips très courts qui sont parus dans IG Mag. Et donc, c'est donc le hors-série avec le recueil de toutes ces bandes dessinées qui s'appelle donc Au bas, gauche, droite, la BD qui teste les jeux vidéo avec humour. Alors, c'est sorti en décembre 2000, ben voilà, le mois dernier. Donc, je vous passe à mes compères.
Ah, merde, ouais, je sais que le chroniqueur jeu vidéo, il a vraiment envie de le voir, mais...
Voilà, okay, ah oui, parce que Dusport est un gros joueur de PS2 en ce moment. Oh là là. Il s'est découvert une passion pour les jeux vidéo de l'année dernière. Voilà, alors donc c'est scénarisé par Greg, qui est un vieux de la vieille au niveau de la chronique de jeu, puisqu'il a collaboré à, je crois, des magazines du temps de Joystick ou de Joypad, ça date. Et Kiri est une dessinatrice d'inspiration manga, elle fait pas mal de personnages en SD, et d'ailleurs ils se représentent eux dans la bande dessinée. Donc lui, il joue plutôt le spécialiste qui va initier Kiri à des genres particuliers. Il va lui expliquer, tiens, tu vois, dans ce jeu tu peux faire ça et tout. Ah ouais, et tout. Alors elle joue la néophyte et lui le spécialiste. C'est pas mal. Alors c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance correcte du monde du jeu vidéo, parce que sinon vous passerez à côté de plein de vannes, de private jokes, mais c'est quand même savourable par des gens qui n'y connaissent pas grand chose. Par exemple, ma copine l'a vu traîner aux toilettes, elle l'a lu, elle a dit qu'elle avait aimé. Donc après, elle est passée outre beaucoup de gags. Mais par contre, par exemple, vous aurez les apparitions des caméos de Bourville, de Funès, de Lee Van Cleef et même de David Caruso en Expert Miami, où il enlève ses lunettes de soleil. Alors il s'agit avant tout de tests. Hein, il faut pas oublier ça, ce sont des tests de jeux vidéo qui sont mis en BD et non pas des bandes dessinées sur le jeu. Voilà, donc là, Nusport vient d'ouvrir la page sur Batman Arkham Asylum où il se représente.
Tu sais que c'était le cas pour le premier tome Kid Paddle.
D'accord.
D'où
le nom Paddle.
C'était une collaboration avec Génération 4, et donc il y avait un test de Populous, il y avait un test de SimCity, mais très vite ça a passé parce que tout simplement Midam, il comprenait absolument pas le jeu vidéo.
D'accord.
Voilà.
Donc elle explique dans les bonus au début, dans la préface, la dessinatrice, qu'il y a une pagination assez réduite et les dimensions des pages qui sont très 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 petites. Hein, donc elle est obligée de caser le maximum de personnages, de décors, de gags, d'onomatopées, de bulles dans des
maquettes
très 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 réduits.
C'est un format un petit peu plus grand qu'un A5, c'est un peu cahier d'école primaire, quoi, en format.
Ouais, voilà. Ouais. Ils vont par exemple coacher des jeunes chanteuses débutantes dans le jeu Idol Master, présenter avec humour la différence entre les jeux d'aventure japonais plutôt fleur bleue, plutôt platonique, plutôt très. C'est beau. Par rapport aux jeux de rôle américains qui sont cyniques et osés, où tu peux voir des princesses, ou des princesses à demi dénudées et tout. Ou encore, comme tu l'as dit, se déguiser en Batman et Batgirl contre le Joker dans le titre Arkham Asylum. Alors, il y a une petite blague derrière en dos de couverture, puisque c'est un magazine IG Mag à la base qui est sans pub. Et donc là, on voit les deux personnages avec ce que je pense être la rédactrice en chef au milieu. Le scénariste se dit « t'as vu, on n'a pas de pub à l'arrière, trop classe. » Abruti, au contraire, ça veut dire que personne n'a voulu acheter cette page. Et la dessinatrice dit « Ouah, regarde, ils ont oublié un bout de zèbre ici. Mais non, c'est un code barre, sortez-moi d'ici. » Voilà, le cas est très très drôle. Voilà, donc c'est bien parce que ça permet de suivre un peu l'actualité du jeu vidéo en bande dessinée. Et puis, même si t'as pas joué au jeu, ils te font quand même... Alors, en plus, ça donne envie de jouer à ces jeux-là. Ils te disent, tiens, que vaut ce jeu-là par rapport à d'autres ? Ils vont plutôt s'attacher aux défauts des jeux et pas trop au graphisme, mais surtout à la scénarisation des jeux. Donc voilà, ils expliquaient que le scénariste, il jouait pas mal d'heures au jeu et ensuite, il refaisait le jeu en compagnie de la dessinatrice. Donc ça demande pas mal d'heures de préparation, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. C'est d'inspiration manga, mais c'est pas ça comprend pas l'espèce d'hommage gratuit et énorme. Oh, regardez, j'arrive moi aussi à faire des petits corbeaux qui passent derrière. Elle s'approprie un code graphique, mais pour le mettre à sa sauce, donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc le sort-série de IG Mag s'appelle Au bas gauche-droite. C'est une série de tests de jeux vidéo en bande dessinée. C'est sorti le mois dernier et c'est scénarisé par Greg et dessiné par Kiri, édité chez Ankama Press. Et je le prête à celui qui veut.
Oh, je vais me remettre à niveau. Tiens.
Allez, voilà.
Et on va entamer avec une autre bande dessinée. Alors là, on est dans tout à fait autre chose. Puisque c'est Frédéric Bézian qui le dessine. Ça s'appelle Aller-Retour et c'est chez Delcourt. Frédéric Bézian est un auteur que l'on a vu un petit peu partout. Il avait sorti notamment chez PLG. Il avait commencé aux Humanoïdes Associés. C'est vrai que c'est un auteur. Je veux dire, vraiment. Au niveau expérimental des fois sur le 9e art. Basile Phare est dans un train, en train de maugréer sur la qualité de restitution de son baladeur MP3. On tourne une page et on se retrouve dans un noir et blanc avec un tramage grossier, comme une BD publiée dans Feu François. Basile Phare descend dans un village pas très loin de Carcassonne et il prend une chambre dans un hôtel. Et en tant que seul client de l'établissement, la question lui est posée par celle qui gère l'établissement. Il dit qu'il est venu pour faire une enquête. Faute de service de location de voiture dans le secteur, Basile en emprunte une au médecin du village. Le voilà qui inspecte, qui regarde les lieux, les passages, les rues, les chemins qui longent le canal, mais pratiquement pas de questions à poser dans l'immédiat. C'est clair qu'il cherche quelque chose, mais que cette enquête est tellement importante qu'il se garde de toute impatience. Les questions viendront toujours bien assez tôt. Un livre qui revient tout le temps, au fur et à mesure de la lecture, L'affaire Saint-Fiacre de Georges Simenon, une enquête du commissaire Maigret où le commissaire revient dans le village de son enfance et c'est exactement ce que nous comprenons. Si l'enquête de Basile Phare ne nous est pas dévoilée, le lecteur en comprend vite la difficulté car le détective est de retour dans un village qu'il connaît très bien mais où quasiment personne ne le reconnaît. Et à mon avis, comme pour Georges Simenon, Frédéric Bézian décrit un peu le village de son enfance. La narration est présente pour rappeler l'ambiance du roman noir. Et pourtant, elle pourrait nous faire échapper à la lecture de constructions méticuleuses, des mises en scène travaillées sur les éclairages et les cadrages. Une fois de plus, Frédéric Bézian sait faire monter une ambiance dans une planche. On sent l'influence des films des années 50, mais aussi les expressionnistes allemands. De belles leçons de bande dessinée se découvrent en avançant dans l'histoire. Au bout d'un moment, le lecteur se pose la question de la réelle finalité de cette enquête. Et c'est là que l'intention de l'auteur se dévoile. Bézian nous renvoie à nous-mêmes, nous questionne sur nos racines, notre enfance perdue, nos émotions passées. La vie tourne au polar lors du premier souvenir venu et pose la question des petits riens qui font ce que nous sommes réellement. Vous connaîtrez le fin mot de l'enquête, mais ce n'est pas l'élément le plus important de cette histoire. Aller-retour de Frédéric Bézian va sortir chez Delcourt en cours de semaine. Et à mon sens, oui, c'est quelque chose qui est à lire. Je sais que Bézian, par le trait qu'il donnait auparavant à ses personnages, c'est-à-dire ses yeux creux avec une orbite qui était blanche, rebutait énormément de gens. Moi, je trouve qu'au contraire, au fur et à mesure, il est de plus en plus accessible. Et justement, bah, cet album, c'est vraiment un album qui permet véritablement de découvrir un autre plan de la bande dessinée. Alors, je sais que Thomas est en train de le feuilleter.
Tout à fait, oui.
Hein non, mais il a lu un petit peu rapidement juste avant. Et...
Bézian ne fait pas partie de ces auteurs dont... qui sont très engageants quand tu feuillettes un album.
Mais d'un autre côté, mais on a vraiment des surprises et il est extrêmement
riche. C'est très riche, c'est très presque glauque parfois.
Méfie-toi parce qu'il nous écoute. Hein.
C'est pas un défaut, d'être bloc.
Non, non, mais d'un autre côté, faut pas oublier que c'est un artiste complet. Il est capable d'être acteur, il est capable d'être pianiste. Il a fait deux ciné-concerts à la Cinémathèque de Toulouse, que ce soit le cabinet du docteur Caligari ou il en avait fait un autre, je crois que c'était Les Chasses du comte Zaroff. Mais là, je ne suis pas très sûr. Mais c'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer sur un plan et qui a vraiment une culture qui est absolument immense. Qui, comme ça, semble pas vraiment accessible. Hein, fait un peu peur, hein, ce qui paraît pour certains. Mais après.
Ah, on va dire qu'il a une tête de bougon.
Mais après, il est franchement. C'est pas quelqu'un dont l'œuvre est à aborder à la légère. Certes, mais c'est quelqu'un qui est vraiment passionnant à lire de ce côté-là. Et là, j'enchaîne sur un autre polar, mais cette fois-ci en livre pur et dur, puisque c'est du sport qui m'a dit qu'il allait me faire un Sherlock Holmes, soi-disant pour tenir à l'antenne.
Eh ouais, et t'as pas de générique en plus, non ?
Bah non, puisque c'est un polar.
Eh bah ouais, bon bah
mais
ok.
Mais là, il me dit, mais non, Adouille, c'est au cinéma. C'est ça ?
mais non, bien sûr.
C'est au cinéma. Jeu d'ombre, par Guy Ritchie.
Non, mais ça sort la semaine prochaine, non, je suppose.
Dans pas longtemps, certainement.
Non, mais là... N'importe quoi.
Le film de la semaine vous est présenté en impression papier avant son passage sur le grand écran d'argent.
Eh ouais, c'est marqué sur la couverture, hein, le nouveau Sherlock Holmes, avec un auteur un petit peu particulier, parce qu'il ne s'agit pas de Conan Doyle, et pour cause, hein, puisque bon, le bonhomme est un tout petit peu mort depuis pas mal de temps, et on découvre de toute façon Anthony Horowitz, un Anglais, donc bon, un petit peu logique. Et c'est quand on lit un petit peu la quatrième de couverture qu'on se dit que ça peut être intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ayants droit de Conan Doyle ont donné leur appui pour que Anthony Horowitz écrive ce bouquin. Et on se dit que ça peut être partiellement intéressant. Anthony Horowitz, c'est un Anglais lui aussi qui est né en 56 et puis qui est un écrivain qui a son actif plus des bouquins pour la jeunesse, hein, d'ailleurs. Bon, enfin, pour la jeunesse, on va dire pour les ados, hein, à partir de 10-12 ans, quoi. Parce que ça raconte des histoires de science-fiction, des histoires de d'action, on va dire, d'espionnage, mais pour les ados, quoi. Donc, avec sa série Pentagram, il inaugure une série de 4 bouquins entre 83 et 89. Ensuite, c'est la série des Frères Diamants, une série un peu plus polar, hein, où il en a écrit 6 entre 86 et 2007, dont le premier, le Fonco Maltais, a reçu en 88 le prix Polar Jeunesse. Ensuite, il a une série, Le Pouvoir des 5, il en a écrit 4, c'est un remix de la série Pentagram, donc de 2005 à 2008. Et la série David Elliott, 2 bouquins écrits seulement en 88 et en 89, L'île du crâne et Le maudit cercueil. Alex Rider, c'est bien entendu son héros récurrent le plus connu, bien entendu, parce que...
Ah oui, c'était porté au cinéma, ça.
A été porté au cinéma, le premier, hein, de la série, il y en a eu pas mal d'écrits, hein, il y en a eu une huitaine, je crois, entre... La série est toujours en cours, hein, d'ailleurs, de toute façon, il a commencé en 2000, le premier Stormbreaker, donc, qui a été adapté en film, en 2006... Il est également connu parce que c'est un scénariste pour la télé. Il a quand même écrit 11 scénarii de la série Hercule Poirot, les Hercule Poirot qui sont instillés avec David Suchet comme héros principal, hein, donc entre 91 et 2002. Également 6 scénarii de la série Inspecteur Barnaby entre 1997 et 2000, donc les tout premiers Barnaby. Bon, donc on se dit que bon, c'est quand même un monsieur qui sait de quoi il parle. Et quand il s'agit toucher...
Ça me disait bien quelque chose, ce nom.
Ouais, et quand il s'agit de toucher... Oui, justement, quoi. C'est-à-dire que c'est le type que tu vois, scénario de machin, de trucs de bidule et tout dans les séries anglaises. Bon, bah, ok, tu retiens pas forcément, consciemment comme ça, quoi. Et tu te rends compte que ce type-là, bon, bah, ok, il est quand même assez connu, assez reconnu. Et quand il s'agit de s'attaquer à un mythe aussi énorme que le mythe de Sherlock Holmes, là, il faut quand même être un petit peu sûr de soi. C'est clair. Alors, on avait déjà eu des bouquins par le passé, par exemple, Michael Dibdin qui s'était fait une petite spécialité au départ de. D'écrire des bouquins à la façon d'eux. Et donc il avait fait un Sherlock Holmes qui était assez intéressant, une histoire de Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, qui était pas mal, qui était un petit peu outré comme ça, assez rock'n'roll on va dire, mais qui était écrit stylistiquement dans le même style que Conan Doyle. Ensuite il a fait un Agatha Christie qui moi m'avait fait royalement chier, mais enfin bon, généralement c'est ce que ça me fait un petit peu les Agatha Christie, quoi. Enfin pas tous quoi, mais pas mal. Mais Anthony Horowitz, on se demandait ce que ça allait donner, parce que bon, bah justement, on connaît tous un petit peu, enfin surtout les Holmesville, quoi, on connaît pratiquement tout et n'importe quoi sur Holmes et sur Conan Doyle, et donc c'est très difficile de s'attaquer au mythe. Et Anthony Horowitz, eh bien, il y arrive tout à fait excellemment, on peut dire, hein, c'est, y a pas de problème, c'est un auteur accompli, et il a su se couler dans le moule. Propre à Conan Doyle. Alors comme d'habitude, c'est toujours Dr Watson qui raconte, qui écrit. Alors bien sûr, il y a ce qui est intéressant, c'est que dans la partie narrative où le Dr Watson se fait reprocher soit par Sherlock Holmes soit par une personne extérieure, eh bien ses talents d'écrivain, parce que bon bah OK, c'est un écrivain qui publie justement les histoires de Sherlock Holmes quand elles se sont déroulées et qui sont publiées quoi dans le journal bien sûr comme c'était l'usage à l'époque. Et donc bah il y a cette histoire de petite pique et tout, non, c'est de la merde. Enfin bon, Sherlock Holmes qui n'aime pas ce qu'il écrit, il trouve qu'il exagère un petit peu ses aventures telles que nous on les connaît. Mais bon bah c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de petit jeu de miroir comme ça, quoi, sachant que c'est Horowitz qui reprend le personnage et tout, et qui se met à la place d'un autre, à savoir celle de Conan Doyle. Alors par contre au niveau de l'histoire, c'est excellent, il reprend tous les codes, hein, comme d'habitude, donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne à fond les manettes, et ça dure très très longtemps parce que le bouquin fait quand même un petit peu plus de presque 350 pages, alors que il n'y a à ma connaissance, mais enfin je pourrais me tromper, mais enfin les bouquins, même les la plupart des aventures de Sherlock Holmes en fait sont des nouvelles, sont des petites histoires qui vont faire quelques pages, on va dire. Bon, ça va de on va dire de la plus courte qui doit faire 4 à 5 pages jusqu'à la plus longue qui doit faire, on va dire, 70-80 pages.
Bah oui, ça paraissait dans des journaux.
Ça paraissait dans des journaux en épisode. Et les plus longues qu'on connaisse, en fait, c'est les deux premières, à savoir Étude en rouge, signe de 4, et Le chien des Baskerville, qui peuvent être, en fait, édités comme étant des bouquins complets. Sinon, le reste, bah, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que c'est plutôt édité, les histoires de Sherlock Holmes, bien sous des anthologies, on va dire, soit la première époque, il y a eu plusieurs époques justement qui correspondaient bien aux dates de parution dans les journaux du vivant de Conan Doyle, bien entendu, quand il écrivait ses histoires, donc au début du siècle dernier. Oh mince, déjà le siècle dernier. Et là, on peut dire que l'histoire, elle tient ses promesses. Alors, il y a une part qui est faite à l'actualité quand même, ça concerne la dureté des propos. Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu durs deux fois dans les Sherlock Holmes classiques, qui sont un petit peu déroutants, qui sont un peu rentre-dedans aussi. Mais là, bon, actualité et contemporanité oblige Horowitz... est obligé d'insuffler, on va dire, un trash supplémentaire, une tragédie supplémentaire qui correspond plus au niveau degré qu'on a de la compréhension des différentes tragédies à ce qui correspond à l'heure actuelle par rapport à... Donc, je révèle rien du tout justement pour vous laisser justement le plaisir de découvrir ce nouveau Sherlock Holmes. En tout cas, pour moi, c'est une réussite. Il n'y a pas de problème, il hein, y a de tout. Je peux juste vous dire qu'à un moment, Conan Doyle se fait accuser de meurtre et il est envoyé en prison. Enfin bon, c'est pas mal, c'est bien parce que bon, pour un bouquin aussi long, eh bien, on reste captivé pratiquement du début jusqu'à la fin. Juste un petit sentiment, on va dire, de lenteur dans la première partie du livre, on va dire dans les 30-40 premières pages du livre, on ne sait pas trop ce qui va arriver, ça a l'air d'être une petite enquête. Anodine, on va dire, comme il y en a pas mal au départ des histoires de Sherlock Holmes, mais bon, bah, ça commence au bout d'un moment dégénérer, on va dire, sur une histoire assez sordide, c'est le cas de le dire. Donc, mais c'est une réussite quand même. Hein. Ça s'appelle donc La Maison de Soie, c'est le nouveau Sherlock Holmes, écrit par Anthony Horowitz, avec donc l'accord hein, des ayants droit de Conan Doyle, et c'est paru dans l'édition française chez Kalman Lévy, et c'est sorti fin de l'année dernière.
Et le film de Guy Ritchie à la distribution dans le rôle titre Robert Downey Jr., Jude Law dans le rôle de Dr. Watson, Naomi Rapace pour Madame Sims Iron, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry. Ah, et dans le rôle de Mycroft Holmes, s'il vous plaît. Ouh, ça va être intéressant. Paul Anderson et tous les autres. Donc, bah, normalement, je crois
que... c'est Moriarty cette fois-ci, le méchant.
Ça va être
toujours, intéressant. Et toujours Eddie Marsan
dans le rôle de Lestrade. Alors, ce qui est assez intéressant, juste si je peux m'accorder une petite minute supplémentaire concernant le bouquin de Horowitz. Alors, les rapports de Holmes avec Lestrade sont vraiment assez tranquilles. On sent qu'ils ont tourné la page. On sent que ils se respectent mutuellement l'un l'autre, malgré leurs fonctions différentes, malgré leur technique d'enquête qui est complètement radicalement opposée par certains moments. Et c'est là que c'est quand même assez intéressant, parce que bon, Horowitz, bon, bah, il n'hésite pas à faire appel justement, vous venez de les citer, à Mycroft, bien sûr, c'est-à-dire à tous les symboles récurrents et on va dire toutes les virgules qui ponctuent comme ça l'œuvre de Conan Doyle, c'est-à-dire Moriarty, bien que il ne soit pas cité du tout, quoi. Mais enfin bon, vous verrez ça en découvrant, c'est assez intéressant. Bien que pour l'habitué, on va dire, des Sherlock Holmes, ça paraît évident depuis le départ. C'est pas mal, quoi. C'est pour ça que ce bouquin est tout à fait agréable, hein, vraiment très très intéressant pour rentrer un petit peu dans le monde de Sherlock Holmes si vous connaissez pas, et bon, pour lire un bon Sherlock Holmes si vous connaissez déjà.
Oui, tu me le demandes à la volée, c'est pas évident, mais bien vu. Je crois que c'est la version anglaise.
Ah merde.
Le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Il habite Baker Street et poursuit Moriarty le méchant. Démasqué par Sherlock Holmes, le plus malin. Courez, courez, Holmes et Watson. Ne laissez pas filer le bandit. Cherchez, cherchez.
Déjà.
Il est 13h, voilà, donc c'était le générique. En fait, c'est parce qu'on l'a cherché en catastrophe sur Dailymotion et comme ils mettent en fait, ils ont pris les images de la version internationale, donc en anglais, donc je me suis dit, c'est la version anglaise. Voilà, et il a fallu recaler en arrivant à skipper la pub parce que c'est pas évident et tout ça. Petite pause musicale, et après, je vous promets, on va vers le futur. Et on commence avec Pomme de l'Homme, Granite. Thomas, ah mais il est bien le morceau, extrait de l'album In Silico, et depuis il y a eu un troisième album qui est sorti de Pomme de l'Homme, donc Granite, ce sont des Australiens qui d'ailleurs maintenant se sont installés en Angleterre, et c'est notamment un remix du générique télé australien qu'on utilise pour la version des news dans notre émission. Voilà, c'est ça.
D'accord.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça.
C'est la loi des séries.
Là. Et ça n'est pas. Non, mais du sport. Te presse pas, ce n'est pas toi. Non, ton micro est coupé d'ailleurs.
Merci.
Ce n'est pas toi, c'est Thomas.
Et ouais, enfin crossover aujourd'hui.
Ouais, yeah.
Alors, il y a 15 jours, nous avions fait notre 300e émission.
Et ah, je me disais, il y avait déjà une erreur dans le conducteur. J'ai mis 202, en fait, c'est à 302, voilà, c'est ça.
Voilà, et donc, nous avions parlé de la nouvelle série V, puisque c'est Bruce, je crois, qui en avait parlé, qui disait qu'il avait été frustré par la fin de la saison 2, la nouvelle série V, il y a deux ans.
Moi, j'avais été complètement dégoûté des effets spéciaux et de l'histoire, mais après...
Et donc, ça m'a donné envie ça m'a rappelé que j'avais le DVD des deux mini-séries originelles de V chez moi et que j'avais jamais vu en DVD. Donc, le soir même, je me suis regardé ça.
Et la musique, donc, qu'il fallait.
Glauquissime.
À aimer tellement, tellement, tellement flippante.
Voilà, donc la musique, ça c'est la musique de la deuxième mini-série, puisque la première mini-série était beaucoup plus dans le synthé un peu très années 80, on va dire. Hein, voilà, alors il faut savoir...
Et pour cause.
Années 70, 78.
Non, on est en 83.
Ah, mais je la première mini-série. Plus vieux,
ouais. Alors, c'est une série qui est disponible donc en DVD chez Aquarelle, une série qui a été imaginée, scénarisée, réalisée par Kenneth Johnson, à qui on doit l'homme qui va être en milliard, Super Jimmy, l'incroyable Hulk, et le plus méconnu Alien Nation, notamment, avec donc dans les rôles...
C'est bien en plus, hein.
Hein ?
Alien Nation, c'est pas mal en plus.
Ah, j'ai pas vu, moi.
Si, si, bah ouais. En fait, c'est la reprise de... Du film qui a le même nom en fait, où t'as les aliens qui cohabitent avec les habitants de les humains, tu sais quoi, pour boire ils boivent du lait caillé quoi.
Je sais pas
si tu rappelles ce truc. Et dans le film t'as James Caan qui fait équipe avec un extraterrestre.
D'accord. Okay, je crois qu'il en parle dans les bonus d'ailleurs. Et donc dans le casting de V, donc Mark Singer, Fay Grant, Jane Bedler.
Yes.
Ça vous rappelle des noms quand vous regardiez quand vous étiez ado. Hein.
À l'aise. Wow.
Michael Ironside.
Ah, même quand t'étais pas ado, hein, quand t'étais ouais, plus
lui,
ado. Hein.
Ouais, voilà.
Lui, il était fabuleux d'ailleurs. Hein.
Voilà.
C'est pas trop si gentil ou méchant.
Michael White, Blair Tefkin, Robert Englund, avant yes. Freddy, avant qu'il joue Freddy.
Oui.
Et Frank Ashmore aussi, qui joue les deux jumeaux traîtres à la nation des visiteurs, qui s'appelle Martin, puisqu'il est, il meurt dans la nouvelle série après, mais il est remplacé par son frère jumeau, incarné toujours par le même acteur. Ah, c'était pas beau.
C'était nul.
Première mini-série de deux épisodes en 83, scénarisée et réalisée par Kenneth Johnson. Une deuxième mini-série de trois épisodes, donc 1h30 à peu près, qui voit le jour un an après, qui s'appelle The Final Battle, la bataille finale, où Kenneth Johnson avait été éjecté par la production pour être remplacé et son équipe de scénaristes également. Et ainsi... qu'une série entre 84 et 85 de 19 épisodes, puisque c'était une série de 20 épisodes, mais le 20e n'a pas été tourné, alors que le scénario était prêt pour cause d'audience. Voilà. Alors, les origines, Kenneth Johnson avait acheté des droits pour un bouquin qui racontait l'arrivée au pouvoir aux États-Unis d'un fasciste, justement, où on pouvait... le propos de l'histoire, c'était que ce qui s'était passé en 1945 était sur le point de se renouveler, que l'humanité n'avait rien appris, etc. Le producteur d'ABC craignait que ce soit trop subtil pour les Américains. Il s'est dit, tiens, le pouvoir venu de l'intérieur, ils vont pas aimer. Donc il a suggéré...
C'était quand même l'époque où ils avaient des productions télévisuelles absolument stupéfiantes, puisqu'il y avait la réalisatrice de celle qui avait la colère de Vra, là, le Star Trek, avait fait un téléfilm assez long de 4 heures sur une attaque nucléaire, mais vue d'une manière ultra réaliste. Donc,
ah oui.
C'était extrêmement noir et ABC avait fait le pari de diffuser à partir de la première explosion jusqu'à la fin sans coupure pub. 2h30 d'horreur absolue, puisqu'on voit les gens carbonisés et tout, etc.
Bien.
Donc, à l'époque, la télévision américaine n'avait pratiquement pas de tabou vis-à-vis de leur, public. Ils n'hésitaient pas, des fois, à faire des trucs franchement subtils.
Donc, le producteur d'ABC craint que ce soit trop subtil. Et donc, il demande à Kenneth Johnson de revoir le scénario et de l'adapter en disant que la menace doit venir de l'extérieur. Donc, il dit, finalement, on va peut-être imaginer que les Russes nous envahissent. Mais finalement, il y a un problème de crédibilité puisque la puissance conjuguée de toutes les autres nations en viendrait facilement à bout. Donc il faut une menace beaucoup plus à grande échelle. Et donc le producteur lui dit bah, t'as qu'à mettre en scène les extraterrestres. Alors Ken Jeong se dit ah non, on va des rétros, pas les aliens, non. Puis bon, allez, écoute, tu prends quelques jours pour réfléchir, t'as le week-end. Donc finalement, il se dit bon, allez, on va faire de la SF parce que les aliens, c'est quand même la bonne solution. Donc il a recours aux extraterrestres. Il faut savoir, dans l'interview exclusive qu'il accorde à l'éditeur DVD, que entre le moment où il dit où le producteur d'ABC lui dit banco et le premier tour de manivelle, 15 jours.
Oh
15 jours. Voilà, avec recherche de décor, recherche de toute la partie pré-prod, recherche de casting, 15 jours. Voilà, il commence à tourner en 4ème vitesse, costume fait super vite. Et donc il raconte ses soucis de casting aussi, puisque par exemple pour Diana il avait trouvé personne, donc c'est Jane Badler, une fois il arrive, parce qu'en fait il tournait des séquences sans avoir le casting fini, c'est-à-dire qu'il y avait des personnages qui n'avaient pas encore eu le.
C'est pour ça que Diana disparaît au bout d'un moment.
Au départ, en fait, elle a un rôle très beaucoup plus discret. Et la deuxième mini-série, comme ils ont vu que c'était elle, tout le monde était devant Jane Badler, donc ils ont foutu un rôle encore plus important. Mais au départ, elle est relativement anonyme, mais en retrait. Et d'ailleurs, dans la première mini-série dont s'est occupé Kenneth Johnson, il n'y a pas un personnage qui soit plus important que les autres. C'est plutôt tout ça. C'est pour ça qu'il y a une profusion de personnages, des savants, choral. Des traqués, des gens qui vont rejoindre les visiteurs, des gens qui sont incrédules, d'autres qui leur ouvrent les bras en grand. On a plein de profils, des gens qui veulent émigrer au Mexique, etc. De toutes les classes sociales. Bon, c'est ça qui est intéressant. Et par exemple, il raconte que bon voilà, pour Jane Badler, il a vu dans la pièce, il a vu qu'elle, il a dit ouais c'est bon, c'est elle. Voilà, obligé. Et pour le rôle de la de Robin Maxwell, celle qui enfante donc qui couche avec un visiteur, une nana qu'on voit dans la série assez frisée, voilà, tout en rondeur, et bien en fait c'était pas elle, c'était une autre actrice qui avait été aperçue dans Poltergeist. Et donc, qui dit j'ai tourné dans Poltergeist, il m'arrive des couilles après. Donc, en fait, elle a été butée par son petit ami alors qu'elle avait déjà tourné les scènes. Kate Johnson a été un des premiers à aller la voir à l'hôpital. Elle est morte. Et donc, il a dû retourner des scènes avec. Là, je vais retrouver Blair Tefkin, voilà, qui a remplacé au pied levé cette actrice. On va raconter l'histoire. Donc c'est l'arrivée des visiteurs avec des vaisseaux mères. Il y a un décompte où il s'adresse à la nation avec une langue qui correspond à chaque nation et tout, à tous les humains. Et ils disent qu'ils sont venus en paix, leur planète a des difficultés, ils doivent fabriquer des produits chimiques avec l'aide des scientifiques humains. Des produits chimiques qui sont tout à fait faciles à faire ici, mais qui vont sauver leur planète qui est beaucoup plus en danger que la Terre. Et en fait, on apprend... au fur et à mesure que c'est pas du tout leur plan, qu'en fait les produits chimiques ils les redéversent depuis leur vaisseau mère, voilà, et leur vrai plan évidemment c'est de pomper toute l'eau de la Terre, puisqu'ils sont en manque cruel d'eau sur leur planète, mais également de capturer beaucoup d'humains pour s'en servir comme garde-manger, ils vont les bouffer ensuite. Il faut savoir que les visiteurs ce sont des gens qui nous ressemblent, qui ont juste une compression du larynx, donc ils parlent bizarrement, mais en fait ce sont des lézards sous la peau. Et pour que, comme ils ont tous des noms bizarres, donc en fait ils ont changé leur nom pour que ce soit compréhensible par nous. Ce qui fait que les aliens dans la série V s'appellent Brian, James, John, Diana et Martin. Voilà, donc c'est très années 80, en plus du brushing bien sûr, puisqu'on m'a demandé hier, mais alors sinon la série, est-ce qu'elle a bien vieilli ou pas? Ben je lui dis, ben, à part la coupe de cheveux, totalement. Elle a totalement bien vieilli cette série.
Elle est étonnante, sa modernité des coupes, des costumes, il y a même une intemporalité quoi, des véhicules, ça choque pas qu'il n'y ait pas de portable ou que les caméras pèsent un âne mort et trucs comme ça.
Oui voilà.
C'est surprenant.
Voilà, la réalisation très moderne également. Et donc Kenneth Johnson dit que justement, une fois qu'il a, il commence à introduire le thème de l'eau qui est pompé par les visiteurs, il introduit l'élément de l'eau dans la mise en scène de ces scènes. Donc c'est pour ça que si vous revoyez la série aujourd'hui, vous avez pas mal de scènes où il y a Daniel Bernstein qui va devenir le plus grand collabo et qui parle, qui est avec celle qui est sa petite amie à cette époque-là de la série, qui est Blair Tefkin dans la chronologie. Il y a des arroseurs derrière, automatiques. Il y a toujours la pluie qui tombe aussi quand ils ont des conversations intimes qui préfigurent ce que va devenir le monstre incarné par David Packer, qui va être un résistant, un traître, un collabo, et qui va exterminer tout ce qui était avant ses amis. Donc au départ,
c'est pas la seule subtilité d'arrière-plan. Je sais pas si tu l'as vu. Moi, ça m'avait choqué parce que j'ai pas revu la série depuis 15 ans. Mais chaque fois que tu as un écran de télé où ils sont dans la rédaction de chaînes de télé, etc. Vous avez les chaînes là qui des concurrentes et on voit passer systématiquement un film avec. On voit un Godzilla, on voit une attaque de dinosaures. Il y a des trucs comme ça qui passent derrière au fur et à mesure. C'est non dit, ça commence à monter. De ce côté-là, ils en profitent pour passer en même temps. Je pense aussi là, des petits clins d'œil. De cette manière-là, il y a des trucs vraiment étonnants hein, d'une modernité. C'est rien n'est gratuit dans la série.
Voilà, ensuite, au départ, ce qui fait la set de la série, c'est qu'il n'y a pas de résistance vraiment organisée. Les gens accueillent les visiteurs. Il y a des plutôt sceptiques, mais pas vraiment. C'est vrai que quand commencent les disparitions de savants, parce que justement, on s'aperçoit que les visiteurs veulent faire croire à tous les gens que les savants, les scientifiques du monde entier font un complot pour essayer de les neutraliser. Donc tout le monde crie au scandale, les scientifiques, faut tous les tuer, faut les empêcher de nuire. Donc il y a une razzia sur tous les scientifiques, ceux qui sont les plus véhéments ont le cerveau reconverti. Il n'est jamais fait mention du procédé, on sait juste que c'est Diana qui est aux manettes. Les scientifiques, on les revoit plus. Donc l'allusion à la Shoah est évidente, surtout que l'un des personnages qu'on suit au départ s'appelle Abraham, et il met en garde tout le monde en disant « Écoutez, moi j'ai connu ça en 40, c'est bon, moi je sais ce que c'est, vous êtes tous aveugles, ouais c'est bon, grand-père, ça s'est passé une fois. » Et en fait, il y a l'introduction de la culture juive à ce stade-là du scénario pour dire « Attention, spectateur, regardez, on introduit, voilà. » Donc c'est vrai que c'est toute cette partie où on ne sait pas trop sur quel pied danser, tous les personnages, les protagonistes humains ne se connaissent pas, puisque d'un côté t'as Julie Parrish qui est scientifique et qui a pas du tout l'âme d'une leader, qui va se retrouver chef de la résistance, mais à cette époque-là elle pense juste à fricoter avec son petit ami. Mac Donovan est plutôt le caméraman de la chaîne de télé, donc lui il va juste voir un vaisseau mère et il va être accrédité pour filmer l'intérieur du vaisseau par la délégation humaine et tout. On voit que ce sont des personnages qu'on va suivre, mais ils se connaissent pas. Et ça met beaucoup de temps avant qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent au bout du deuxième épisode. Chaque épisode fait quand même 1h40. Donc on passe quand même plus de 2 heures où on voit les protagonistes qui ne se rencontrent pas. Voilà, chacun a ses problèmes à gérer. Un, il doit surveiller sa famille, la sauver, passer les frontières, passer les barrages des visiteurs, etc. Il y a des premiers assassinats sommaires. Tu dis, tiens, oui, bon, et en même temps, l'humain, il l'avait cherché, il avait voulu être un numéro visiteur. Puis après, tu t'aperçois que c'est plutôt en masse, c'est plutôt en série, voilà. Donc ça, c'est la montée de ce climat un peu glauque, un peu oppressant, se fait très 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 crescendo. Et donc, hormis les allusions à la Shoah, donc on a pas mal de, voilà, comme tu disais, des allusions distillées au niveau de la mise en scène également. Et cette première mini-série sur laquelle a travaillé Kenneth Johnson se clôt donc sur un appel à l'aide des résistants dans l'espace par ondes radio, puisqu'ils savent par Martin, le membre de la cinquième colonne des visiteurs, que les visiteurs ont déjà été vaincus par un ennemi. Et donc ils font un appel dans l'espace en disant si vous nous écoutez, bon, ils savent pas trop sur quoi ils vont tomber, parce que peut-être que ça va être pire. Là, et puis ils font un appel à l'aveugle. Et ça se finit aussi sur le fait que Robin est donc enceinte de Brian, le visiteur, super beau gosse avec le brushing et les yeux bleus impeccables. Et d'ailleurs, une scène totalement froide et super efficace où il est en train de consommer avec Robin et derrière la vitre. Comme un interrogatoire, en fait, il y a Diana qui se délecte et il est en train de regarder Diana. Donc il y a quelques allusions au départ sur la bisexualité de Diana, puisque quand elle s'approprie une attachée de presse en lui disant « Oui, on est très gentil avec vous », elle n'arrête pas de la caresser. Tu vois que c'est vraiment la dominatrice, voilà, pour pas dire plus. Et ensuite, il y a une deuxième mini-série où là, c'est l'intro. Alors, cette deuxième mini-série va beaucoup plus être ancrée science-fiction avec des batailles de pistolets laser, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas crédibles. Par exemple, Mike Donovan, qui est le résistant numéro 1, qui est l'ennemi public numéro 1 des visiteurs, il va aller sur le vaisseau mère en nombre incalculable de fois. Ouais, mais j'ai mon uniforme, personne ne me reconnaît. C'est au dernier moment, quand le visiteur va se faire assommer. Hé, mais vous êtes Mike Donovan ! Alerte, alerte ! Et alors, plutôt que de faire profil bas et de se terrer dans un trou, non, non, qu'ils envoient des résistants. Allez, McDonovan, va t'incruster dans le vaisseau mère, c'est n'importe quoi. Et puis bon, même si cette deuxième mini-série est beaucoup moins intéressante au niveau climat oppressant, elle a quand même le mérite d'introduire le personnage de Ham Tyler, Michael Ironside, qui est quand même celui qui fait la blague du meurtre, hein. On va pas se cacher, on va pas bouder notre plaisir, où il y a plein de blagues genre « Ah bah tiens, toi tu vas finir en sac à crocro, ou toi le lézard je peux pas te les blairer, ou alors avec la toxine rouge à la fin tu vas te repoudrer le nez aussi », enfin c'est lui qui fait les blagues. Quand même, les humains, ils ont beaucoup de pertes humaines. Lui, il arrive avec son acolyte, il décime un escadron visiteur à lui tout seul, avec juste une mitraillette et du C4. Ouais.
Respect.
Voilà. Donc, voilà. Donc, les deux premières mini-séries. Ensuite, il y a... Donc, évidemment, ça se conclut sur la toxine rouge. Vous connaissez tous l'histoire avec Will balance de la toxine dans l'air à base de montgolfière.
Ouais.
Peace and love. Montgolfière, voilà.
Ouais, et puis le truc à peine facile à flinguer, un petit coup, même une balle suffit.
Oui, alors ils expliquent, parce qu'ils sont pas cons les scénaristes, qu'en fait Diana se lâche sur une montgolfière, sauf que la toxine rouge, en fait, ça va contaminer toutes les nappes phréatiques de la Terre et qui va rendre donc tout ce qui est eau, en fait, nuisible pour les visiteurs. Donc c'est, en fait, ça fonctionne sur le long terme aussi. Alors là, tous les vaisseaux mères se barrent de la Terre, à part évidemment le vaisseau mère qui est au-dessus de Los Angeles, parce que c'est Los Angeles, et puisque c'est Diana qui est aux manettes aussi.
Bah oui.
Voilà. Ensuite, il y a une autre série qui est faite, donc là, j'en parlais, la série de 20 épisodes, et donc on en arrive à ce remake il y a 2 ans, produit par ABC, avec Morena Baccarin dans le rôle d'Anna, qui est... c'est pas du tout une suite, hein, c'est un remake. Elle s'appelle plus Diana, mais Anna. Il y a une apparition de Jane Badler dans le rôle de la mère de Anna dans la saison 2, et ainsi qu'une apparition de Mark Singer, qui joue l'une des têtes pensantes de la résistance humaine. De son côté, Kenneth Johnson, il a mauvaise, hein, de s'être fait virer de son bébé. Donc, entre-temps, il a imaginé une suite. Il a imaginé une suite sous la forme d'un roman qui s'appelle La Nouvelle Génération, qui n'a pas été édité en français, mais qui est disponible en anglais sur les sites marchands sur Internet. Et ça se passe, ça ne tient pas du tout compte de la nouvelle série, de la série de 20 épisodes et de la mini-série qui suivait. En fait, il oublie tout ça. Et en fait, ça se passe de nos jours. Donc il y a eu beaucoup beaucoup d'années, 25 ans qui se sont passés. Les visiteurs sont toujours là, il y a quasiment plus d'eau sur la planète, mais quand même ils ont guéri le cancer, ils ont guéri pas mal de maladies, et ça se passe comme sous l'occupation, c'est-à-dire que si tu fais pas de vagues, si tu fais attention à ce que tu dis, si tu restes dans ton coin, eh ben tu vis normalement. Sauf que t'es sous le joug de visiteurs. Et un jour, l'un des membres historiques de la résistance, il y a la porte qui... Quelqu'un sonne à la porte, elle ouvre, il y a des gens qui sont habillés totalement normalement, sauf qu'ils ont la peau qui brille un petit peu anormalement, et puis ils disent « Voilà, on a reçu un appel, et nous sommes là, voilà. » Et donc on sait pas sur quoi on va tomber. Voilà, donc Kenneth Johnson se livre dans une interview en bonus sur le DVD édité par Aquarelle. Donc l'interview se déroule pendant 34 minutes et c'est un moulin à paroles, mais super instructif. Il explique quel a été son rôle, comment il a cherché le casting, comment il a imaginé le scénario, comment le tournage s'est passé, etc. Ses rapports avec la production, aux chaînes de télé, c'est super intéressant, pas langue de bois du tout. Et aussi, on le voit aussi dans un making-of, toujours en VO sous-titré, au travail, avec les acteurs. Alors moi, j'ai pas eu le temps de regarder la version commentée, parce qu'il y a la version commentée aussi, ça peut être très intéressant. Wow. Mais comme c'est une série que j'avais pas vue depuis longtemps, j'ai préféré, je l'ai vu jouer en VF pour avoir le même le souvenir avec les vraies voix et tout, enfin les voix voilà telles que le je les imaginais, ouais. Voilà le doublage. Donc voilà,
si je me souviens bien, c'était Antenne 2 qui avait passé à l'époque et ensuite ça a été diffusé après sur A5.
Ah, d'accord.
Il avait diffusé sur Antenne 2 et après effectivement c'était passé sur A5, donc peut-être que le doublage est relativement qualitatif.
Voilà, donc des scènes marquantes, hein, le bébé lézard qui sort du ventre de Robin avec ses petites dents là, elle dit la nana qui est super contente, ah il est pas mort et tout, et, ah, regarde la gueule qu'il a. Voilà, la torture de Julie Parrish avec Diana qui la regarde à travers la glace, avec ses maquettes géantes de monstres qui la poursuivent dans des coursives qui ne sont pas sans évoquer Alien. Sachant que les visiteurs, quand ils arrivent pour visiter les centrales et les complexes scientifiques, en fait, il y a des orchestres humains qui leur jouent la musique de Star Wars quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est assez rigolo. Voilà, et voilà, donc il explique tout le travail qui a été fait sur la musique aussi, sur le thème de McDonovan qui est pas sans rappeler la chevauchée des Walkyries de Wagner, avec justement quand il est poursuivi par des lasers et tout, c'est à peine voilé sur la chevauchée des Walkyries de Apocalypse Now. Donc voilà, il y a pas mal de... On en apprend beaucoup, et donc c'est toujours un plaisir de revoir cette série, même si elle a pris un tout petit peu coup de vieux vers la fin, parce que franchement, je me disais, toutes les scènes, j'en parlais à off avec Xavier en arrivant, toutes les scènes marquantes que tu as dans ta tête, eh ben, ce sont des scènes de la deuxième mini-série, mais quand tu le revois aujourd'hui avec ton regard d'adulte, ben, en fait, tu t'aperçois que la première mini-série est beaucoup plus intéressante. Avec la mise en place où rien n'est vraiment montré, tout est suggéré, tu te dis non, c'est pas ça, si, et voilà. Donc voilà, qu'on vous recommande, hein, il faut la revoir. Voilà, donc le volume 1, donc c'est l'intégrale des deux mini-séries de 83 et 84, édité chez Aquarelle, avec des bonus tout à fait pertinents.
Et c'est ça qui est surprenant, c'est que les effets spéciaux, quand même, maintenant, grâce au numérique, on arrive à faire des effets spéciaux qui sont beaucoup plus cohérents, donc encore plus incroyables, et les images sont artificielles, rapportées, ont l'air vraiment extrêmement naturelles. Et pourtant, la nouvelle série, à mon sens, va vieillir beaucoup plus mal que celle-ci. C'est-à-dire que dans 5 ans, vous l'aurez complètement oublié. Que cela soit les visiteurs qui disparaissent dans une flamme en moins d'une seconde, sans une seule cendre, les décors virtuels, et on plaque dessus les personnages, donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont en papier, et tout ça. Alors que là, ben, ce sont d'abord des costumes qui sont travaillés, secondo, ce sont des vrais décors, la scène de torture avec l'espèce de laser, etc.
Ah oui, et là, c'est du physique. C'est physique. C'est des vraies lumières. Oui.
Et d'un autre côté, ça joue énormément. Même les ordinateurs de l'époque, avec des lampes ou bien des tubes cathodiques, ça passe sans aucun problème, à mon sens. C'est peut-être aussi parce qu'on a 35 ans.
Ouais, il y a quand même des petits vaisseaux où c'est pour mettre une petite flotte dedans.
Le direct où ils montrent les visiteurs aussi, où il y a un mauvais plaquage.
Et puis il y a les effets de maquette avec les petites navettes qui... Bon, là, tu sens que l'incruste, elle est moyenne. Mais d'ailleurs, dans le making-of, ils expliquent que c'est toujours la même maquette qu'ils ont reconstruite après, qu'ils ont envoyé encore se refaire exploser parce qu'il y a eu deux attentats dans la série. Et en fait, c'est la même qu'ils ont reconstruite. Voilà.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'ils avaient imaginé des modules, donc c'est des navettes plus ou moins grandes comme les bus en fait, où tu peux ajouter des modules, et ça permettait à l'équipe des architectes de construire assez facilement les navettes. Voilà.
D'accord, ok, en tout cas c'est une leçon par rapport à c'est un immense regret ce qu'aurait pu être la série moderne. Du coup, si vous avez été un petit peu déçu de ce que l'on vous a dit sur V et que le remake vous a énormément déçu, foncez dessus, vous allez comprendre justement pourquoi on avait tant d'espoir. Et Dus est en train de noter en quatrième vitesse. Alors ça, oui, ça, non. Mon Dieu, Philippe, qu'est-ce que tu as sous la main?
Alors, tout d'abord, au niveau des séries, alors, je voulais m'étendre un petit peu sur une série qui... c'est plutôt une mini-série parce que s'agit de téléfilm. C'est anglais, c'est britannique et ça parle de la guerre en Irak. C'est sur Canal+ à partir de demain soir. Ça s'appelle Strike Back, ça c'est le nom de la série en fait. Et demain l'épisode, ce sont des téléfilms, ça s'appelle Mission Irak. C'est tout récent parce que ça a été filmé et diffusé l'an dernier avec Richard Armitage, Andrew Lincoln qu'on connaît un petit peu parce que c'est lui qui fait partie de la distribution de Love Actually, Love Actually, le film. Jodie May et Colin Salmon, qui lui, que tu rencontres absolument dans pratiquement toutes les séries anglaises. Sans problème. Hein, Prime Suspect, enfin bon, il y a toujours un moment où t'as Colin Salmon qui arrive. Bon, bah, mais bon, c'est un bon acteur. Tout ça, donc, c'est demain soir. Sinon, Castle, lundi, sur France 2, c'est le dernier.
Oh,
attention.
Et apparemment, il y en a un personnage qui meurt.
Ah, apparemment, ouais. Apparemment, je me suis laissé dire ça. Donc,
j'ai vu dans l'interview de Nathan Fillion, il disait, bon, on s'est dit, dans une série policière, c'est pas très crédible, c'est la personne qui meurt. Donc, on met un mort à la fin de la saison.
Voilà, ça, c'est lundi sur France 2 à 20h35. Sinon, si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil.
À mon avis, si vous voulez mon avis, je pense que dans l'épisode précédent, on a vu que le chef de la police comptait prendre sa retraite. C'est mauvais signe.
Ouais, justement, c'est ce que je me suis dit là. Fallait pas le dire, ça. ça porte
d'ailleurs, regarde
pas bonheur.
La photo de ma fille, j'ai pour en profiter.
Ouais, c'est ça, t'as qu'à croire. Hein. Sinon, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur la série Southland que j'avais chroniqué d'ailleurs lors de sa sortie en diffusion, mais c'était sur TPS Star. Et là, eh bien, elle est tombée, pas dans le domaine public, mais enfin presque. Sous l'escarcelle de Série Club qui donc les diffuse dans l'ordre et tout et en version multilingue, donc c'est assez intéressant. Une série instillée par John Wells qui est quand même un vieux routard de la série télé et qui avait été à l'origine avec Michael Crichton créateur de Urgence, et là il nous fait Southland. Alors,
comment
Southland,
t'as dit Crichton?
Crichton, ouais. Southland, eh bien, c'est une histoire de flic, mais on va dire une série chorale. Il n'y a pas vraiment de flics qui se détachent et tout. Alors c'est filmé avec bien sûr une espèce de couleur saturée, c'est normal, on est à Los Angeles. Ça fait penser un petit peu au niveau image, au niveau éclairage, eh bien, à Boomtown, une série comme ça, mais sans la sophistication. On est plus dans l'image réaliste à la façon d'Homicide. Et c'est un petit peu comme Homicide, hein, d'ailleurs, une série chorale où on suit plusieurs équipes de flics et tout faire leurs différentes enquêtes dans les rues chaudes de Los Angeles, la plupart du temps dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Ça se laisse regarder, c'est pas mal, c'est assez sympa, c'est assez intéressant. Donc c'est sur Série Club demain soir à partir de 20h45. Sinon, on a également une série nouvelle toute neuve qui démarre mardi prochain sur Orange Cinémax, et c'est une série française et qui a l'air d'avoir un concept assez intéressant. C'est l'histoire d'une nana qui est une star du porno et qui décide d'arrêter sa carrière pour apprendre la philosophie, suivre des études de philosophie.
C'est quoi ce truc ?
Dans le rôle
c'est l'histoire de Brigitte Lay,
avec dans le rôle de Candice Doll Allison, la petite sœur de Vanessa Paradis, Nikita Lespinasse, Jérôme Daran et Philippe Vieux. Alors, petite série, c'est-à-dire 8 épisodes, et le premier épisode est donc diffusé mardi prochain à 20h40 sur Orange Cinémax. Sinon, des films vite fait ce soir, il n'y a qu'un western, c'est le 5 cartes à abattre de Henry Hathaway en 1968. C'est une tuerie, ce film, avec Dean Martin, Robert Mitchum, Inger Stevens, Roddy McDowall et Catherine Justice. Demain, sur Direct 8, un petit western spaghetti avec Le Mercenaire de Sergio Corbucci, avec Franco Nero et Jack Palance, ainsi que Tony Muzante, dont tu parlais la semaine dernière.
Ça
tu
tient.
Vois. Eh ouais, mais tu vois, il a commencé sa carrière déjà en 68, il tournait lundi. Eh bien, la soirée polar de Hammett est tout à fait intéressante pour les gens qui connaissent pas vraiment les très très bons polars, à savoir tout d'abord à 20h35 Les Tueurs de Robert Siodmark, adapté du bouquin de Hemingway To Have or Have Not, En Avoir ou Pas, avec Ava Gardner, Burt Lancaster, dont c'est le premier film en tant que premier rôle, hein, et là il explose parce que bon, il est très très jeune et c'est là qu'il se révèle vraiment, quoi. Il y a également Edmund O'Brien, et c'est un des, on va dire, dans la catégorie meilleur polar des années 40, je veux dire, il se situe facilement dans les 20 premiers, tranquille. Mais alors, tranquille, à l'aise, hein, si pas dans les 10 premiers. Et suivi du Hammett de Wim Wenders, qui est tout à fait intéressant, hein, avec Frédéric Forrest qui fait un Hammett très convaincant, Peter Boyle, Jack Nance, Marie Lou Henner et Lydia Lay. Mais moi j'entends bien.
Moi aussi.
Non, c'est le micro d'ordre, voilà. Hein. Lundi. On vous explique, on est en train de discuter avec Souchinette.
Ouais. Lundi.
Bonjour.
Lundi également, en hommage au Costa Concordia. Oula,
sur 6 films,
la croisière s'amuse.
Deux films à 20h45, Titanic 2 de Shane Van Dyke avec Brooke Burney et Marie Westbrook, où l'histoire d'un bateau qui cent ans après le Titanic bah, il sombre également.
Est-ce que suivi. Est-ce que tu sais qu'il y a un film qui a été tourné sur ce
Oui.
Tu l'as envoyé. C'est Socialisme de
Jean-Luc Godard.
De Jean-Luc Godard qui a été tourné
C'est vrai, ils en ont parlé, ouais, c'est vrai.
Ouais, il a eu une courte carrière, 5 ans ce navire, mais quand même.
Alors, et après Titanic 2 à 22h15, Super Tanker, Jeffrey Scott Landau, là, un spécialiste du genre, avec Velikar Binav, Callum Blue, Sarah Brown et Owen Dario. On dirait une distribution de films X, mais c'est pas vrai. Sur Action, encore lundi, là, celui-là, il est pas mal, hein, c'est La Ceinture Noire de Robert Klaus en 1974. Robert Klaus qui avait réalisé une année auparavant
Enter the Dragon.
Enter the Dragon, et il reprend l'un des acteurs de Enter the Dragon, le Black, Jim Kelly, donc
le
personnage principal avec Gloria Hendry et Scatman Crothers. Cela, c'est plutôt le pendant noir, c'est-à-dire qu'on réunit on réunit le film asiatique, le film asiatique et le film de Blaxploitation, tout simplement, avec Jim Kelly.
Et il vaut quoi alors ce film?
Il est bien, il est vraiment
il a dit,
bien. Mardi, encore des polars. Alors, mardi sur Polar, il faut regarder quand même parce que c'est une soirée spéciale. Roger Hanin. Avec tout d'abord, eh bien, Roger Hanin dans les années 60, quand il castagnait à coups de manchette et de karaté.
OSS 117
Le solitaire passe à l'attaque. Avec Jean Lefebvre, un film de 66, suivi de Dernier été à Tanger de Arcadie avec Thierry Lhermitte, suivi de La Baraka. Ou sinon, sur la chaîne Histoire, eh bien, on parlait de Sherlock Holmes avant, eh bien, il y a une soirée Sherlock Holmes sur cette chaîne Histoire. Tout d'abord, à 20h35, c'est David Hyman qui est l'un des personnages récurrents, l'inspecteur qui a toujours son par-dessus dans Crime sur la Tamise, Meurtre sur la Tamise. Mmh. Tu vois lequel là, dont je parle?
Non.
T'as la blonde et puis t'as l'autre. Quoi,
oui.
Ok, tu vois.
Qui est un peu dégarni, qui a l'air débonnaire, mais.
C'est David Hyman, donc acteur écossais. Il va à la recherche de Sherlock Holmes à 20h35. Donc il se déplace un petit peu partout en Grande-Bretagne sur les lieux où sont supposés avoir eu.
Ça doit pas être mal parce que j'ai cru comprendre que c'était un gros passionné de. C'est un acteur assez passionné de polar. Donc,
Et écossais en plus, donc normal. 21h35, l'homme qui a tué Sherlock Holmes, j'ai déjà vu celui-là, mais en fait ça raconte l'histoire de Conan Doyle. Et à 22h40, la trace de Jack l'Éventreur. Mercredi sur Arte, hommage spécial Angoulême avec deux films d'animation. Tout d'abord à 20h35, Persepolis de Marianne Satrapi et Vincent Parrono. Ensuite Valse avec Bachir, Dari Folman. Et à 23h35, la BD s'en va en guerre. Et on a encore du Sherlock Holmes sur Paris Première avec les mystères de Sherlock Holmes. Ça raconte les histoires de Conan Doyle, médecin. Et de Graham Bell, de Alexander Bell.
Oui, celui qui l'a inspiré, celui qui a plus ou moins commencé à mettre les bases de la police scientifique.
Qui est interprété par Ian Richardson. C'est pour ça qu'on vous en parle, parce que c'est quand même Ian Richardson.
Mais après, c'est moyen comme ça. Hein,
mercredi. Moi j'aime bien, quoi, franchement, parce que ce sont des intrigues qui sont inédites et on arrive à tourner ça à la façon d'eux, à la manière d'eux. Donc, dans un registre classique, hein, avec reconstitution, costume et tout. Mais bon, ça tient vraiment la route.
Fais attention, chérie, ça va troller.
Mercredi, sur Disney Cinémagique, la coccinelle à Monte Carlo, dans l'actualité, bien sûr.
On en parlera tout à l'heure.
Sorti en 77 avec Dean Jones, normal, et Roy Kinnear. Jeudi, sur Syfy, encore du Sherlock Holmes, ça c'est un inédit, c'est un téléfilm américain assez récent, 2010, avec Ben Stiller, Gareth David Lloyd et Dominic Keating, sur Syfy, donc jeudi prochain à 20h45. On a également jeudi prochain Bronson de Nicolas Winding Refn, ça c'est sur Ciné Plus, Frisson, excellent.
C'est quand que vous faites péter le DVD là?
Et sur Ciné Plus.
On a du sport, hein, je l'ai rendu.
Jeudi prochain. Abattoir 5 de George Roy Hill, l'excellente adaptation du roman de Kurt Vonnegut. Vendredi sur France 2, c'était une série qui avait été instillée avec toute l'histoire des dames du jeu de cartes. Là, on en est à Dame de Carreau, vendredi prochain, avec Alexis Lecaille aux manettes, une histoire de crime en série. Enfin bon, c'est assez glauque quand même, avec Thierry Godard, Valérie Jacobert-Koretsky. Sophie Charlotte Husson et Anne Loinet. Sinon, on a également sur Ciné Plus Classique. Alors là, c'est vraiment un film qui est vraiment très intéressant à replacer dans le contexte de l'époque, les années 60, et qui parle d'un sujet qui a beaucoup intéressé les gens. C'est normal, c'était assez récent, hein, c'était la Deuxième Guerre mondiale. C'est Les Culottes Rouges d'Alex Joffé en 62, avec un des héros, on va dire, et un des acteurs les plus connus du cinéma français de l'époque, Bourville, confronté à Laurent Terzieff. Et là, ça se passe dans un camp de prisonniers français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Laurent Terzieff, qui est un prisonnier qui passe de camp en camp, parce que chaque fois il essaie de s'évader, donc un des rois de l'évasion. Et en face de lui, Bourville, qui joue le personnage timoré, avec des lunettes, malingre, qui connaît pas sa force et tout. Et bon, le duo est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Il y a également Jacques Balutin dans ses Culottes Rouges, ainsi que Étienne de Berry. Donc c'est vendredi prochain sur Ciné Plus Classique. Les trois qui sont chaudement recommandés. Pour terminer, c'est sur la chaîne Action 5, Gâchette d'or de Tony Servi, avec Brett Halsey, Bud Spencer et William Berger. Ça, c'est du western spaghetti. Il y a également le classique indémodable et toujours aussi jouissif sur Orange Cinéchoc, Predator 2 de Stephen Hopkins. Ouais, quand même, faut le dire. Hein. Et on termine avec le sublimissime, surtout pour la beauté plastique d'une certaine Raquel Welch en pleine forme à l'époque, Le Sans Fusil sur Orange Ciné Géant. Raquel Welch, Burt Reynolds, le film de 69 de Tom Grease.
En plus
Et surtout la scène de la douche. Hein. La scène de la douche, quoi. Ouais, bien sûr.
J'ai pas vu le film, alors...
Bon. Alors, l'agenda rapidement du... Cette semaine, on va commencer dès aujourd'hui avec en dédicace Orm, qui a dessiné la métamorphose de Kafka chez Delcourt et qui vient de sortir chez Vendouès. Le Port de Lune, c'est à la librairie Les Petits Ruisseaux. C'est dans le quartier Saint-Cyprien Républicain. C'est à partir de 16h. Ce lundi, Olivier Daugier dédicacera la Zone Rouge chez Paquet. C'est du sport automobile. Hein, au moment où la DS sortait, et ben, la Porsche Carrera allait dévorer des routes européennes. Romain Hugo sera aussi en dédicace pour Le Grand Duc, sa trilogie chez Paquet, qui a eu le prix Actu ABD Conseil Général des Jeunes de la Charente.
En 2009.
C'est à la librairie Album à partir de 15h. Le lendemain, Stan Sakai, auteur. Nippo-américain de Usagi Yojimbo sera en dédicace à la librairie Album, donc c'est à partir de 15h. Et samedi prochain, et ben donc notre émission sera en direct d'Angoulême. N'oubliez pas aussi que à partir du mercredi 25 janvier jusqu'au 10 février, c'est le festival Made in Asia. Cette année, le pays invité est Taïwan, puisque c'est le centenaire de la République de Chine. Plus d'informations sur festivalmedinasia.com, festivalmedinasia sans accent ni tiré, et toutes les infos sur Radio Éphémère, puisqu'on est partenaire quand même de ce festival. Oh my god, mais il est 13h42 et Sushinet va devoir presser du sport pour toutes les news. Thomas, est-ce que tu peux faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission Super en week-end en cours de route?
Oui, tout à fait, nous avions une page spéciale charentaise de la copie de Mediatek, une chronique triplée, du pixel art d'IKEA, une Konami Code, un chien détective, un truc bidule connu, du sac en croco, une distribution de films X, une scène de douche.
Nom d'un lézard. Ils ont manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr. Par exemple, pour Emmanuel Gollet, dire nom d'un lézard, c'était un peu court, t'aurais pu dire nom d'un lézard à brushing, ça aurait été plus drôle. Supplément Weekend, supplémentweekend.fr, sans accent, ni tiré, ni espace, n'hésitez pas. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, et ben donc nous sommes en direct de la Charente avec nos camarades d'ActuABD. Donc pour un papier d'ambiance en direct d'Angoulême, tous les potins, toutes les infos, tous les sentiments qu'on n'ose pas écrire sur le site ActuABD seront dans l'émission Supplément Week-end, exclusivement en audio. Donc on se dit la semaine prochaine, même heure, même fréquence.